Générique.
Bonjour, bonjour à tous. Un nouveau générique s'ouvre avec encore de très très bons films.
Entre le ciel et l'enfer de Akira Kurosawa, 2h20 sa durée, d'après l'œuvre de Ed McBean. Sorti le mercredi 9 juin 1976, il ressort le mercredi 6 mai 2026 en Blu-ray chez Carlotta Video. Akira Kurosawa, telle une pièce de théâtre, nous fait pénétrer dans une immense pièce d'une luxueuse villa qui domine Okoyama, qui appartient à Kingo Gondo, responsable majoritaire d'une fabrique de chaussures. Nous sommes en plein conseil d'administration. Kongo veut garder la ligne de l'emprise fabriquer des chaussures de qualité. Ses associés seraient plus enclins à faire du bon marché pour une plus faible durée et renouveler plus souvent la chaussure. La réunion se termine dans une tension assez houleuse. Sa femme lui demande le pourquoi du comment. Quand le téléphone sonne, une voix lui annonce que l'on vient d'enlever son fils et qu'une forte rançon sera nécessaire pour le libérer. Quand d'un coup, son fils apparaît et demande où est passé son copain de jeu, qui n'est autre que le fils du chauffeur. Une confusion s'ensuit, le malfaiteur a fait une erreur sur l'enfant, ce qui ne l'empêche pas de retéléphoner et de reconnaître son lapsus et de demander la même somme pour le même châtiment. Kingo Gongo est assis entre deux chaises, ce n'est plus son fils mais celui du chauffeur. La même somme demandée, la même somme d'argent demandée était prévue pour l'expansion de l'entreprise, cela change tout. Il appelle la police, qui arrive guillemets en livreur pour ne pas éveiller les soupçons. Ils ne savent pas d'où le maître chanteur appelle. Et là, une stratégie d'écoute se met en place. Kongo, avec la complicité de la police, accepte de payer la rançon. Une ruse sera mise au point, mais pas exécutée. Là, nous sortons pour la première fois de la maison. Nous sommes dans le wagon du train qui doit emmener Gondo au rendez-vous pour poser la rançon. Il reçoit un message comme quoi l'enfant n'est pas dans le train. Mais une fois le pont métallique passé, il doit jeter le sac de billets par la fenêtre des WC, la seule qui s'ouvre, et l'enfant sera libéré. Il accepte et il récupère le petit garçon de son chauffeur. La police va tout faire pour mettre la main sur les coupables, avec tous les indices que l'enfant pourra donner et surtout les photos prises du train sur la voiture et sur les personnes qui détenaient l'enfant malgré leur grand chapeau. Akira Kurosawa apporte une solution au personnage de Kingo Gongo qui joue malgré la situation de la condition malsaine. Il pousse le bouchon jusqu'à la caution pour jouer le rôle du personnel à Takushi qui veut rencontrer Gondo une dernière fois pour pouvoir dialoguer avec lui et lui montrer que la mort ne lui fait pas peur. Gondo est surpris et du même coup c'est Takushi qui l'a fait basculer dans une autre hiérarchie de situation. Takushi en est presque content et déclenche une hystérie qui alerte les gardiens qui le saisissent pour le rapporter dans sa cellule. Le dernier plan est tragique et fataliste. Un rideau métallique qui descend entre eux. Un film rare de Kurosawa qu'il ne faut pas rater. Kurosawa apporte une sensibilité différente, à la fois théâtrale et psychologique du comportement. Akira Kurosawa est né le 23 mars 1910 à Tokyo. Il est décédé le 6 septembre 1998, toujours à Tokyo. Il était réalisateur et scénariste. Alors je ne vous donne pas sa filmographie parce qu'on en aurait pour un sacré bout de temps. Mais sachez qu'il a fait énormément de films, tous très bons si vous connaissez bien Kurosawa. Sachant que celui qui nous occupe aujourd'hui, Entre ciel et enfer, a été réalisé en 1963.
Générique.
Macho Dancer de Lino de Broca, 2h15 sa durée. Ce film est sorti le 9 septembre 1988 aux Philippines. Il ressort le mercredi 6 mai 2026 en Blu-ray chez Carlotta Video. Comme à son habitude, Lino de Broca ne donne pas dans la dentelle. Son film s'ouvre sur un jeune garçon en pleine jouissance et apparaît un crâne dénudé. De suite, l'on se dit qu'il est avec une personne beaucoup plus âgée. Effectivement, or l'on comprend vite que ce monsieur est son amant depuis quelque temps et qu'il doit quitter la région. Paul se retrouve totalement démuni. Cela lui servait à nourrir sa famille. Sur la table de nuit, l'homme a laissé son revolver. Paul s'en empare comme le prolongement de son galant, le regarde et le repose comme un renoncement. L'homme lui dit d'aller à Manille afin de pourvoir aux besoins de sa famille. Là, il trouvera du travail et pourra faire des économies et les rapporter. Paul explique à sa mère la situation, qui de force ou de gré accepte le deal que lui propose son fils. Il part à Manille avec son copain Noël et sur place, la vie change, le mouvement, le monde dans tous les sens. Ils vont voir une boîte de nuit où se produit uniquement des hommes, les spectateurs également. Ils rencontrent un personnage hors norme, mère, qui tient la boîte de main de maître, où rien n'échappe. Tout passe par lui. Quand il voit Paul, il lui demande de se déshabiller. Il lui dit qu'il lui montre son sexe. Il l'embauche. Il lui rappelle les règles de bonne conduite. Paul fait partie du macho danseur. Il est super bien accueilli par la communauté gay qui plaisante avec lui. Il a aussi un numéro qu'il réalise avec Noël. Tout se passe bien, il ne fait pas de vagues. Jusqu'au jour où il tombe amoureux de Binning, une prostituée qui est dans le même quartier que lui et qu'elle sort d'un mauvais pas. Paul pense alors qu'il y a une chose, rentrer chez lui, éventuellement avec Binning. Lino de Bocca se sert d'une histoire presque romantique pour prolonger tout le monde d'un conflit politique. La corruption n'est pas anonyme. Ce ne sont pas les restes de Marcos où seule la corruption avait lieu de cité. Les homos, des personnes malades. Le nouveau régime, soi-disant, n'a pas eu le temps de faire des réformes. Quand le pli est pris, il est difficile de le changer, surtout sur les points aussi sensibles. La population, elle reste. Elle renverse un gouvernement ou une dictature pour des raisons souvent économiques, pas de morse. À cette époque, Corazon Aquino était toujours de ce monde. Lino de Broca, comme à son habitude, pousse loin le point de vue de la situation. Il se sert de la réflexion et de leur recul face à la violence physique et mentale proposée par l'environnement ambiant. Paul était à des années-lumière de cette situation, cette violence. Il la poussera pour retrouver ce qu'on lui avait enlevé et brutalisé. Lino Broca, avec ce film, comme ses autres productions, ne fait rien pour rien. Chaque image appelle une autre image pour lui succéder et apporter un contenu toujours réaliste de sa pensée que les autorités sont souvent passées à côté. Procurez-vous rapidement ce Blu-ray, vous passeriez à côté d'un grand film. Lino de Broca est né le 7 avril 1939 à Pilar. Il est décédé le 22 mai 1991 à Quezon City. Il était réalisateur, était scénariste. Alors, je ne vous donne pas non plus sa filmographie parce qu'elle est gigantesque de chez gigantesque. Juste vous dire qu'en 1988, Macho Dancer était le film qui nous occupe aujourd'hui. Il a une filmographie gigantesque, comme je vous disais. Si vous voulez vous la procurer, je pense que le mieux, c'est de vous baser sur Wikipédia.
Générique.
C'est quoi l'amour de Fabien Gorgeard. 1h45, ça a duré. Ce film était au Festival international du film de la comédie de l'Alpe d'Huez en 2026. Il a obtenu le Grand Prix. Marguerite vit paisiblement maintenant qu'elle est divorcée de Fred. Elle a la garde de leur fille, qu'elle élève un peu dur pour ne pas qu'elle dérape. Un jour qu'elle travaille, un homme la demande. Elle est surprise, elle vient voir. C'est Fred, la surprise. Que fais-tu là? Il lui dit, je voulais te voir. Peux-tu m'accorder 5 minutes? Marguerite lui dit oui. Elle dit qu'elle prend une pause. Ils vont boire un café. Fred annonce qu'il se remarie. Super, lui dit Marguerite, que Fred projette de se remarier avec Chloé. Il lui explique qu'il a un problème. Chloé est très croyante, elle veut absolument se marier à l'église. Le souci est qu'il ne peut pas se remarier deux fois à l'église. Il faudrait que Marguerite dissimule le passage à l'église pour leur mariage. Là, un gros problème va surgir, car il va falloir fouiller dans le passé, pas toujours très net. Marguerite semble être bien dans ses baskets, les éléments que lui apporte Fred la font vaciller pour des petits riens et font faire se poser des questions, jusqu'à là des troubles dans son couple. Fred ne sait plus comment prendre les choses et explique à Chloé le pourquoi du comment. Elle va jusqu'à prévenir des prêtres de sa famille pour régler la chose, ce qui n'arrange rien. Ils vont être obligés de faire le voyage à Rome à la rencontre du Saint-Père, où là, encore, il y aura des péripéties pas attendues. Fabien Gorgeard réalise un film qui démarre bien et qui s'enlise assez vite dans des méandres sans fin et inimaginables. La comédie dramatique devient très rapidement un sujet risible de seconde zone, où les personnages se pincent pour savoir exactement ce qu'ils font là. Laure Calmy, avec son humour en demi-teinte et irrésistible, Vincent McKen joue toujours le même rôle de lourdeur qui demande pardon. Grégoire le prince Ringuet, qui laisse pour un instant Robert Guédiguian pour devenir ecclésiastique de façade. Autrement, le film tombe très vite dans l'ennui des films comiques français de cette comédie de l'Alpe d'Huez. Il faut noter que Fabien Gorgia est né le 5 avril 1976 à Rouen. Il est réalisateur, il est scénariste et il a une filmographie basée pratiquement tout sur le court-métrage. Il a fait que 3 longs-métrages. En 2017, Diane à les épaules. En 2021, La vraie famille. Et en 2025, C'est quoi l'amour, le film qui nous occupe aujourd'hui et qui est loin d'être un chef-d'œuvre.
Générique.
Sauvons les meubles de Catherine Combs. 1h25, ça a duré. Ce film était à Arras Film Festival en 2025, aux rencontres cinématographiques de Cannes de 2025. Ce premier film de Catherine Combs, tiré de son vécu, Lucie et Paul, sœurs et frères, dans la vie, sont prévenus que leur mère est très malade. Ils arrivent tous les deux sur place. Ils s'aperçoivent que leur mère, en évidence agonisante, que ses jours sont comptés. Dans le même temps, le frère et la sœur se penchent sur le côté à suivre en cas de décès. Ils regardent les papiers de leur mère. Là, c'est la surprise, la douche froide. Leur mère est surendettée. Et de plus, elle s'est servie de faux noms, donc usurpation d'identité. Là, c'est la fraude et tout ce qui va avec. Lucie, qui est photographe professionnelle, voit tous les jours des personnes qui magouillent dans tous les sens, qui font la une des journaux. Là, elle est en face de sa mère. Lucie et Paul n'ont pas un temps infini pour sauver ce qu'il y a encore à sauver, sans faire de vagues et de scandales, car indirectement, ils sont mêlés dans l'affaire. Comment faire? Le reste de la famille est aussi venu. Sont-ils utiles ou gênants? Là est la question, peut-on les joindre au secret? Le dilemme est grand. Catherine Combs réalise son film avec des notes d'humour sur un sujet tragique. Cela fait passer le drame, l'ampleur du motif, surtout avec un cas personnel qu'elle a aménagé. Film sans grande ampleur, cinématographique, gigantesque, sympathique, avec des acteurs qui se donnent pas mal pour tirer leur épingle du jeu. À voir pour toutes ces raisons. Il faut noter que Catherine Combs est réalisatrice et scénariste. Elle a une toute petite filmographie puisqu'elle a réalisé en 2015 Amoureuse, qui est un court-métrage, en 2018 Famille, qui est un court-métrage, et en 2026 Sauvons les meubles, son premier long-métrage, le film qui nous occupe aujourd'hui. Faites le détour, c'est un film qui tient la route. C'est pas le film qui renversera les montagnes, mais ça vaut le détour quand même.
Ce générique se clôt. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec encore de très bons films.
Générique.